Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois le lauréat de la deuxième édition du prix littéraire Europe 1 GMF, Charles Wright. On va marcher 700 km avec lui, nous lirons un roman culte. J'ai choisi une autre balade, celle de Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, dans les Cévennes, avec un âne. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr, celle du chanteur Alex Baupin. Aujourd'hui, nous irons nous balader dans une librairie, ça c'est comme toujours, chez Marie-Ève, à Saint-Mandé cette semaine. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse, évidemment. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre. C'est parti, premier chapitre. Bonjour Charles Wright.
Bonjour Nicolas.
Je précise que vous êtes français, hein, c'est pour ça que vous n'avez pas d'accent. Wright, ça vient de votre famille ?
Mon père est anglais, enfin a des origines anglaises.
Parfait, donc vous êtes bilingue j'imagine.
Non, je parle anglais avec un accent corrézien, c'est catastrophique.
Alors, je commence juste par là, vous avez reçu le prix littéraire Europe 1 GMF. C'est une vanité pour quelqu'un comme vous, un prix, c'est...
Pas du tout, c'est un immense plaisir parce que voilà, on a travaillé un an et demi dans la solitude, dans le doute aussi, il faut reconnaître. Hein. Et voilà, des gens éminents comme vous et puis comme beaucoup d'autres disent que c'est pas nul. Et alors ça fait grand plaisir. Et puis comme c'est aussi un prix qui a un petit supplément d'âme, et ça aussi ça fait plaisir parce que on vit. Je trouve que c'est l'initiative du prix littéraire Europe 1 GMF de mettre en valeur des livres qui, justement, essaient de mettre en évidence le bien qui se fait dans la société, et ben, je trouve que c'est une très heureuse initiative dans une époque qui est quand même un peu fascinée par la noirceur.
Alors, on va en parler de ce livre, Le chemin des estives, qui s'ouvre sur... Il y a une fausse ouverture, en fait, qui n'a rien à voir avec le reste, enfin si, qui est un point de départ, mais ça se passe dans les années 90, c'est un récit de jeunesse, vous avez 14-15 ans, et on est en 95 ou 96, et vous nous racontez une histoire. Et moi j'aime bien ça parce que je vois arriver dans la littérature contemporaine les récits de jeunesse des années 90, et moi c'est... Bon, ben voilà, c'était ma jeunesse aussi, et ça fait du bien, et on sent que vous y prenez plaisir à raconter cette période-là. On va en venir ensuite. Il y a aussi une raison pour laquelle vous racontez cette période-là en particulier, mais vous n'êtes pas dit, tiens, je ferais bien finalement peut-être un récit de jeunesse plus long.
Alors ça fait plaisir et en même temps ça fait mal parce que quand on commence à raconter sa jeunesse, c'est qu'elle est passée. Moi j'avais 15 ans dans les années, comme vous dites, 90, donc c'est Doc Gynéco, c'est le Club Dorothée, c'est toutes ces choses-là. C'était quand on devait draguer... une fille, il fallait appeler le fixe des parents, voilà, donc c'est une époque qui est révolue, et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai fait une fugue pour aller retrouver des fiancées allemandes, une fugue qui ouvre le livre, parce qu'elle est, à mon avis, assez fondatrice.
Parce que c'est une envie de liberté, en fait, qui vous anime depuis toujours, quoi.
C'est une envie de liberté, c'est une envie de fuir un peu les choses sérieuses, l'esprit de sérieux, le monde des adultes, et puis aussi un désir, je crois qu'on part parce que à mon avis, tout départ, tout voyage, c'est un peu une fuite de soi, la tristesse d'être que soi aussi. Mais c'est aussi un appel, on est attiré par quelque chose qui nous manque.
Oui, si c'était qu'une fuite, ça s'appelle être en cavale, c'est pas très intéressant, c'est pas très positif. Là, vous avez un objectif quand vous partez.
Quand on
va reprendre depuis le début. Non, je parle là du chemin des estives, du récit vraiment où vous avez fait ce parcours incroyable. Mais on part du début, vous étiez où avant ? Vous faisiez quoi ? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie ? Quel genre de type vous étiez ?
Alors, bon, jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait ce que ma mère m'a demandé de faire, c'est-à-dire des choses sérieuses, des métiers sérieux. J'étais plume pour un ministre, j'ai travaillé sous l'Ancien Régime, c'était à l'époque de Jacques Chirac.
Ah oui ?
J'ai travaillé dans la presse et dans l'édition. Et puis, tout ça me laissait dans le cœur un grand vide. Hein. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je n'étais pas comblé, quoi. Et donc, quand j'avais 30 ans, j'ai ouvert un évangile. Et alors, il faut se méfier de l'évangile parce que c'est très subversif, finalement. Ça renverse tout. Les pauvres deviennent les rois, les puissants sont détrônés. Et alors, ça a mis toute ma vie en l'air. C'est devenu un peu rock'n'roll et je me suis mis un peu à hanter les monastères, les ermitages. Et c'est comme ça qu'à 37 ans, je me suis retrouvé chez les jésuites, avec ce désir d'absolu un peu.
Pourquoi les jésuites ? Parce que les jésuites, il y a tout un mythe autour. Alors d'abord, il y a le côté enseignement. On a certains grands-pères qui nous racontent leurs souvenirs de l'école chez les jésuites. C'est pas forcément que des bons souvenirs, c'est l'école, quoi. Et puis, il y a le côté jésuite du XVIIe siècle, avec Aramis, capitaine de la Compagnie de Jésus, des jésuites. Et c'est-à-dire, c'est un peu les théories du complot à l'ancienne, quoi. Hein, société secrète et tout ça. Et puis, il y a le côté jésuite avec Mission, un peu romantique, le film Mission avec Robert De Niro. Pourquoi vous êtes allé chez eux en particulier ?
Il y a toute une légende noire, vous avez raison, des jésuites. On dit que c'est les francs-maçons du catholicisme. Alors, il y a tout un imaginaire qui est complètement fantasmé, qui est étonnant. D'ailleurs, il faudrait qu'un historien en fasse la genèse. Moi, c'est que j'ai croisé des jésuites depuis le début de... Je ne suis pas allé à l'école chez les jésuites, mais à partir de mes 30 ans, j'ai été accompagné par des jésuites et j'ai senti chez eux une liberté. Voilà, incroyable. C'est des gens qui m'ont aidé à affûter ma liberté. Ça m'a attiré. Et puis aussi le fait que ce soit des aventuriers. C'est des gens qui, comme ça, qui sont appelés par le lointain, par l'autre, qui font le mur. Ça m'attire. Et puis le fait que ce soit aussi un peu des intellos.
Alors je précise tout de suite, parce que vous le faites aussi dans le livre, à votre manière, que vous n'êtes pas du tout dans le côté prêchi-prêcha religieux, génuflexion, je tire la langue pour l'hostie et tout ça. Et même les textes et les chants et tout ça, ça ne vous attire pas tellement, le rituel. Même ça vous rebute un peu. C'est étrange de partir du coucher dans un ordre religieux.
Et bien justement, c'est ça aussi qui m'attire chez les jésuites. Les jésuites, ils ne sont pas très donnés sur la dentelle et tous les trucs... ils ont toujours l'air de découvrir la messe. Moi, je trouve ça très sympathique. Et de fait, oui, moi, j'étais arrivé à un stade de ma vie spirituelle où je ne pouvais même plus entendre parler de Dieu. Toutes ces choses-là me paraissaient... J'avais soif de silence. Il y a un moment, tous les discours spirituels me paraissaient presque faire écran à la réalité. Donc j'avais besoin de retrouver la réalité, justement, dans sa transparence native, presque.
On va parler tout à l'heure du moi mendiant, c'est-à-dire ce que raconte le livre. C'était cet itinéraire de 700 km sans un sou en poche. Mais quel a été le déclencheur, en fait ? Comment ça s'est passé au début ? Est-ce que vous avez eu une sorte de vertige quand vous avez tapé à la porte la première fois, je veux dire ?
La première fois, j'ai eu terriblement honte. C'est vraiment très humiliant de dépendre des autres, de demander sa nourriture.
Non, je ne parle pas du chemin. Je parle de quand vous avez tapé à la porte des jésuites pour dire « je voudrais faire le noviciat et l'apprentissage ».
Oui, et bien ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une approche parce que les jésuites, ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement. Donc il y a tout, on en rencontre beaucoup, on est interrogé un peu sur notre ville, on va chercher à voir vraiment quel est le désir profond. Donc, en fait, il y a toute une approche très longue avant d'être sûr que c'est là.
Et alors donc, vous entamez ce mois mendiant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Les jésuites souhaitent que leurs recrues, si vous voulez, fassent un apprentissage qui ne soit pas livresque, qui ne soit pas cérébral. Et donc, qu'on passe par des expériences concrètes. Il y en a beaucoup. Il y a celle-ci, donc, qui s'appelle le mois mendiant, où on doit partir à deux avec un camarade qu'on n'a pas choisi, et vraiment sans argent, sans téléphone portable, nu comme des vers. L'idée, c'est que plutôt que d'apprendre dans les livres l'abandon, la confiance, la pauvreté, on l'expérimente concrètement dans sa chair, on la vit, quoi.
Mais vous n'êtes pas des pères blancs en aube, quoi. Il n'y a pas tellement de signes extérieurs de jésuitisme.
Aucun. Non, aucun.
C'est encore plus compliqué.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est aussi une expérience d'abandon de tous ces rôles sociaux. On part vraiment, on n'a pas le droit de dire qui on est.
Ah, vous, oui.
On peut juste dire notre prénom, c'est-à-dire qu'on est... C'est très bon. Alors, c'est à la fois très vertigineux et en même temps, moi, j'ai trouvé ça très jouissif, justement, de s'abstraire des rôles. On retrouve vraiment l'épure. Qui on est ? Ben, Charles, c'est tout. Donc, on ne peut plus s'abriter derrière ces étiquettes, ces cartes de visite, et y compris l'étiquette de jésuite.
Et donc, vous allez devoir demander le gîte et le couvert tous les soirs pour survivre, simplement, pendant un mois. Restez à la porte, mon vieux. Je vais voir ce que j'ai dans le frigo. Je reviens tout de suite. Dans un instant, on part avec vous dans le Massif Central.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue toujours avec Charles Wright pour Le Chemin des Estives chez Flammarion, prix littéraire Europe 1 GMF. C'est lui le lauréat. Vous êtes toujours avec nous, Charles Wright. On parlait juste avant la pause de votre volonté, de votre soif de silence. Vous vouliez un festin de silence. Vous écrivez ça dans le livre parce que vous aviez une vie trépidante, bruyante, etc. Et tout à coup, vous avez voulu retrouver la solitude et le silence. Et vous avez donc tapé à la porte des jésuites et entamé votre noviciat pour devenir jésuite. Et dans ce cadre-là, il y a le mois mendiant, c'est-à-dire on part sur les routes sans un sou en poche et on se débrouille pour se nourrir et pour se loger. Alors ça commence mal parce que vous apprenez assez vite qu'en fait, il n'y a pas tellement de solitude, parce que même pas du tout, puisque vous êtes, on vous colle un comparse novice aussi qui part avec vous. Et c'est Benoît. Et au début, ça vous ennuie un peu, quoi. Et puis finalement, c'est vous le relou très vite, hein, parce que vous partez en train vers Angoulême et vous passez par Paris, il y a un changement, et vous lui dites « Oui, je sais qu'on n'a qu'une heure de battement, mais je voudrais quand même aller retourner voir le jardin du Luxembourg, vite fait. » Et lui, il stresse parce qu'il n'a pas envie de louper son train, et c'est vous le boulet, en fait.
Exactement, c'est moi le boulet. Mais vous avez raison, c'est aussi une épreuve de compagnonnage, cette affaire, de camaraderie. Il y a certains lecteurs qui m'ont dit qu'on formait un duo comique, un peu, des sortes de Don Quichotte et Sancho, ou de Laurel et Hardy. Tout nous oppose. Tout nous oppose. Et en même temps, moi, j'ai eu beaucoup de chance et je veux lui rendre hommage. Je pense que ce prix, c'est lui qui devrait l'avoir parce qu'il, de fait, il m'a supporté pendant un mois.
Lui, il était bistrotier dans le Nord.
Et exactement.
Puis, un jour, pareil, il a décidé de changer de vie.
Exactement. Il a écouté toute la misère humaine qui se déversait dans le bistrot et ça l'a préparé à devenir prêtre, puisque effectivement il a été retourné. Oui, donc c'est une épreuve. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a une tête de moine dans les publicités de fromage. Mmh. Et donc c'est lui qu'on mettait plutôt en
avant. Chaussé au moine, quoi.
Exactement. C'est lui qu'on mettait en avant plutôt pour aller frapper à la porte.
Vous partez donc dans le Massif central. Pourquoi le Massif central? Parce que c'est l'idée que vous faites du silence?
Non, mais parce que comme vous disiez tout à l'heure, moi j'avais vraiment une grande soif de vide, d'espace, de nature sauvage. Et bon, on voulait marcher aussi très longtemps, 700 km. Et quand on réfléchit à un endroit où sur 700 km, on peut comme ça s'immerger dans de la splendeur géographique aussi, ben le Massif central s'impose. Je suis tombé en préparant le livre sur une vieille théorie militaire à la fin du 19e siècle, après la défaite de 1870, l'état-major a réfléchi et s'est dit où est-ce que, en cas d'invasion du pays, où est-ce que les armées peuvent se récapituler, se réunir. Et en fait, c'est le Massif central qu'ils ont élu. Voilà, c'est l'un des derniers réduits de silence, de beauté. C'est un endroit qui échappe encore à la connexion, à la frénésie du monde, en fait. Et je crois qu'on vit dans une époque où les possibilités de repli deviennent rares. Et le Massif central, c'est une sorte d'ermitage géant.
Alors, on l'a dit, vous n'avez pas de sous, vous êtes tous les deux, il faut que vous tapiez aux portes sans vous présenter pour essayer d'avoir un peu de quoi manger, éventuellement un coin pour dormir et se laver. Et ça, que vous partez d'Angoulême, vous irez jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges, c'est votre point de chute. Notre-Dame-des-Neiges qui est un très très bel endroit en bordure des Cévennes, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et vous partez. Et vous apercevez tout de suite que ça ne va pas être facile. Et ça commence assez mal, en fait.
Ça commence assez mal, parce que en fait, il y a un apprentissage de la mendicité. Et nous, on était des vrais bleus, donc on était complètement ridicules. Le premier soir, on se retrouve à Touvres, qui est une banlieue d'Angoulême. Et la nuit tombe, on cherche un logement. Tout le monde, notre mot d'introduction est bavard. Enfin, c'est une catastrophe, on est gêné, on n'ose pas trop. Tout le monde nous ferme la porte au nez. Donc on finit par se réfugier dans un lavoir envahi par les moustiques. Et puis surtout, on se dit qu'il faut manger quelque chose. Et là, on trouve trois carottes. Les gens nous donnent trois carottes pour le dîner. Donc on éclate de rire. Et on se dit que, de fait, le voyage va être un petit peu compliqué, quoi.
Trois carottes et une boîte de macros.
Non, mais des macros qu'on a partagé à deux.
Et alors, du coup, vous apprenez petit à petit, puis vous cheminez. Hein, et puis, il y a des très bons moments. Alors, il y en a d'autres un peu plus désagréables. Il y en a un qui vous dit, qui est assez drôle, il vous ouvre, vous lui expliquez votre situation. Il dit, ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hospitalité, les gens sont vraiment des égoïstes. Et puis, il ferme la porte en disant bon courage, quoi.
Ouais, c'était très violent.
Mais ça, c'est violent, mais à la fois, c'est très intéressant, puisque ça dit quelque chose aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un brave type, quoi, en théorie, effectivement. Mais de là à faire lui-même le pas, c'est plus compliqué.
Oui, exactement. C'est merveilleux, si vous voulez. On a été accueillis parfois par des femmes seules. Sur 30 jours, on a été accueillis chez les gens la nuit à peu près entre 15 et 20 fois. Ce qui n'est pas rien. Parfois, on a dû dormir dehors à la Belle Étoile. Mais de fait, il faut du courage quand même pour ouvrir sa porte à deux inconnus qui ont... Bon, on n'a pas non plus des physiques de clochard. On a un petit capital social. Ils voient bien qu'on n'est pas complètement... Mais enfin... il faut quand même un courage fou, et notamment les femmes seules qui nous ont accueillis chez elles. Moi, je trouve ça admirable.
Et alors, une vieille dame en particulier, je veux bien que vous nous racontiez cette histoire.
Oui, alors c'était dans un petit hameau de Creuse dont j'ai oublié le nom. Pendant la canicule, il n'y avait personne en fait. On avait soif, très soif, il fallait recharger nos bouteilles d'eau. Tous les volets étaient fermés, les gens étaient barricadés contre le soleil. Juste une femme, les vieilles grand-mères comme il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Ces personnages comme ça qui... écoutent le temps, qui sont assises sur des chaises, c'est magnifique. Et donc, absorbée dans ses pensées, sous son arbre. Et on va la voir pour recharger nos bouteilles d'eau. Elle ne nous dit pas un mot. Elle prend les bouteilles jusqu'à sa cuisine, très lentement, comme ça, on attend, religieusement. Et puis, elle revient. Et en partant, elle nous dit juste un mot. Elle nous dit, mes petits, j'ai 92 ans. Quand je repense à ma vie, ce qui m'a rendu heureuse, ce sont les gens à qui j'ai rendu service.
Et elle va se rasseoir.
Elle va se rasseoir, et c'est beau parce que c'est une phrase qui est qui est polie par une existence entière, et voilà, ça nous a fait notre journée.
Ce qui est bien dans ce livre-là, alors il y a des gens pas trop sympas aussi, hein, c'est vraiment pas du tout manichéen, mais la leçon quand même, c'est qu'on se dit, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, il y a quand même des braves gens partout, qu'on le veuille ou non, quoi. En fait, le monde n'est pas si terrible qu'on veut bien le dépeindre souvent, quoi, en disant oh, « les gens sont tous égoïstes » et tout.
Exactement, et puis les Français aussi, on a une pente au dénigrement, hein, à la haine de nous-mêmes. Il y avait un vieux, l'Emmanuel Lavis, que lisaient tous les petits étudiants de la Troisième République, la première phrase, c'était « tu dois aimer la France parce que l'histoire l'a faite grande et la géographie l'a faite belle ». Alors on n'est plus trop dans ce climat aujourd'hui, mais quand on fait un voyage comme ça, eh ben, c'est un peu ça dont on fait l'expérience, c'est-à-dire que la géographie de notre pays, c'est une bigarrure absolument merveilleuse. Et puis les Français, eh ben, mine de rien, ils sont peut-être un peu compliqués, il faut peut-être forcer un peu la main, mais quand on brise un peu la glace, eh ben, il y a des trésors d'humanité, de bonté et de générosité.
La littérature vous accompagne aussi beaucoup dans ce récit, dans votre voyage le vrai et dans le récit que vous en avez fait.
Oui, exactement. Alors, quand on voyage un peu seul, on est accompagné. Voilà, il y a des compagnons. Déjà, on pense beaucoup aux êtres chers. C'est marrant, hein, quand on voyage seul, ça convoque vraiment le souvenir. Et puis, il y a tous ces compagnons de papier que sont les écrivains. Et donc, on marchait sur les pas de Charles de Foucault. Et puis, moi, j'avais aussi les œuvres complètes de Rimbaud dans le sac. Donc, voilà, le livre, c'est aussi...
Charles de Foucault qui était un père blanc, un religieux.
Bon, il a changé beaucoup d'identité, mais c'était un grand mystique, ouais, qui est parti aussi dans le Sahara, qui est parti en Afrique comme Rimbaud, un contemporain de Rimbaud. Et donc le livre est parsemé... Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Rimbaud, je suis un amateur comme tout... J'ai été biberonné à Rimbaud comme tous les collégiens français, quoi. Mais il est très présent parce que, voilà, c'est un pèlerin, et voilà, il m'a aidé à avancer comme ça, au jour le jour.
À la fin, vous parlez d'un syndrome de la cabane un peu étrange. Syndrome de la cabane, on connaît un peu à cause du premier confinement. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient, enfin des psychologues dans les médias et tout ça. C'est l'idée qu'une fois qu'on a été enfermé comme ça longtemps, quand on sort, c'est très très étrange, on a perdu ses repères. Et vous avez une forme de syndrome de la cabane, malgré votre incroyable liberté en fait, de mouvement que vous aviez, vous.
Oui, exactement. Mais c'est-à-dire que l'espace, c'est une drogue dure et ça a été très difficile de... Mais déjà de redormir dans une chambre, de quand on a passé un mois comme ça à contempler des ciels étoilés, à boire l'eau des sources, à caresser des vaches, et puis à ne pas payer aussi. Hein. Ça a été très rude la première fois où je suis allé dans une boulangerie, que la boulangère m'a demandé 1,50€ pour ma baguette tradition, après avoir mangé gratis pendant un mois, ça m'a fait bizarre. Donc il a fallu se réhabituer.
Elle est chère votre boulangère.
Oui, non, peut-être avec un pain au chocolat. Mais il a fallu se réhabituer un peu au jeu social, et voilà.
Eh ben, je vous propose de partir faire encore une autre balade juste après, là, pour le livre culte. Je l'ai choisi exprès pour vous, c'est Stevenson. Voyage avec un âne dans les Cévennes. À tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre, il est l'heure du livre culte. Charles Wright est toujours avec nous pour Le Chemin des Estives chez Flammarion. Je l'ai choisi un peu pour vous d'ailleurs, Charles, ce livre, et parce que je l'aime beaucoup aussi. C'est Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Nous sommes en 1878 en France. Stevenson vient de se faire larguer par sa copine, et oui, qui est repartie en Californie. Il est là, il se dit qu'il va marcher pour se consoler. Il part du monastier à côté du Puy-en-Velay et il part pour une balade de 200 km à travers le Gévaudan, dans la Lozère, les Cévennes. Et il n'est pas seul, il loue un âne, une ânesse en fait, Modestine. Au début, il la déteste parce qu'elle n'avance pas, mais très vite, elle devient son amie et indispensable. Il nous raconte ses nuits à la Belle Étoile, ses rencontres, bonnes ou mauvaises, et sa marche. C'est un récit génial, très court, une centaine de pages. Et voici la première, lue par Philippe Dussault.
La charge et le bas. Dans une petite localité nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne à 15 milles du Puy, j'ai passé environ un mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égale. Il y a dans cette bourgade des tenants des quatre partis qui divisent la France. Légitimistes, orléanistes, impérialistes et républicains. Et tous se haïssent, détestent, dénigrent et calomnient réciproquement. Sauf quand il s'agit de traiter ou une affaire ou de se donner les uns aux autres des démentis dans les disputes des cabarets. On ignore jusqu'à la politesse de la parole. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vu comme un point de ralliement. Chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger. Cela n'était pas dû simplement à l'hospitalité naturelle des montagnards, ni même à l'étonnement qu'on y avait de voir vivre de son plein gré au Monastier un homme qui aurait pu tout aussi bien habiter en n'importe quel autre endroit du vaste monde. Cela tenait, pour une grande part, à mon projet d'excursionner vers le sud à travers les Cévennes. Un touriste de mon genre était jusqu'alors chose inouïe dans cette région. On m'y considéré avec une piété dédaigneuse comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent, comme envers quelqu'un en partance vers le pôle inclément. Chacun était disposé à m'aider dans mes préparatifs. Une foule de sympathisants m'appuyait au moment critique d'un marché. Je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou un déjeuner. On était déjà à la veille d'octobre que je n'étais pas encore prêt à partir. Pourtant, aux altitudes où conduisait ma route, il n'y avait pas lieu d'escompter un été indien. J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien n'est en effet plus fastidieux pour un type débonnaire que la nécessité d'atteindre un refuge dès que vient la brune.
C'était la première page de Voyage avec un âne dans les Cévennes, lu par Philippe Dussault. Merci à lui. Je l'ai choisi exprès pour vous, Charles Wright, puisque c'est un peu la même idée, sauf qu'il a, sans la dimension mystique, encore qu'il y a une dimension éventuellement spirituelle, même chez Stevenson. Vous connaissiez ce livre, ça vous a inspiré aussi ou pas ?
Bien sûr, il était très présent. Il était très présent, notamment à la fin du voyage, quand on était dans les Cévennes. On a marché sur ses pas à certains moments.
Oui, parce que maintenant, le voyage de Stevenson, c'est devenu un GR très, c'est une
très
autoroute,
fréquenté.
Quoi. Et on peut louer des ânes, ouais. Je l'ai fait, moi. En fait, ce n'est pas du tout fait pour la solitude, hein. C'est une autoroute.
Non, il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc, on s'est retrouvés sur ce chemin. Il a dormi à l'Abbaye des Neiges. Donc oui, moi, ça me plaît. C'est un texte qui est plein de fraîcheur, qui n'a pas vieilli. Moi, ce qui me plaît, c'est... Bon, il est parti pour soigner un chagrin. L'idée de la marche comme une thérapeutique, comme un médicament. Je crois que la marche c'est quelque chose qui nous lave, qui nous soigne, qui chasse les idées noires. Je dis souvent que c'est comme le champagne qu'on sabre, ça libère des énergies en soi. Et c'est ça dont il a fait l'expérience. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est cette idée finalement qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'offrir de l'aventure. Voilà, Stevenson, c'est un aventurier de la France cantonale. Oui. Il parle des Cévennes comme des, il est écossais, comme des Highlands de la France centrale. Le Massif central, c'est un island à ciel ouvert.
Moi, je dis le Montana français.
Ah oui, exactement.
Ça, hein.
Avec l'école du Montana.
Alors, Stevenson, il a son âne, Modestine. Vous n'aviez pas d'animal comme ça qui vous accompagnait pour porter votre sac. Mais en revanche, il compte les animaux, et notamment les vaches ont un rôle très important.
Oui, mais c'est ça aussi qui est très beau chez Stevenson, c'est ce contact avec, avec les bêtes qui nous humanise. Moi, les vaches, alors évidemment, je ne peux pas croiser une vache sans lui faire une déclaration d'amour, ce qui nous mettait souvent en retard, évidemment, puisque dans le Massif central, elles sont omniprésentes, il y en a partout, de toutes les races, les férandaises, les salaires, évidemment, les limousines, les aubraques. Et bon, je dis que ce sont des tranquillisants, c'est vrai. Regardez marcher une vache dans un champ avec cette allure comme ça de vieille dame tranquille, bon, ben, ça vaut tous les Xanax. Mmh. Et puis aussi, elle nous enseigne un autre rapport au temps. Voilà. Elle nous enseigne l'art de flâner, de méditer, de tendre l'oreille. Voilà.
Restez avec nous, Charles Wright. Dans un instant, on se sédentarise. On va visiter une bibliothèque, celle du chanteur Alex Baupin. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. Alex Baupin sera en concert, mais oui, le 11 juin au Trianon à Paris, c'était l'occasion de visiter sa bibliothèque. Alors j'y suis allé. Bonjour Alex Baupin.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pas de rien.
Dans un petit appartement, très chouette. Et la bibliothèque est dans votre chambre.
Oui.
Nous sommes dans la chambre d'Alex Baupin. Complètement dingue, mais il y a une grande bibliothèque avec beaucoup de livres. Et alors, c'est très rare, mais vous m'avez dit avant d'allumer le micro que, bah oui, la plupart des livres qui sont là, vous les avez lus. C'est très rare parce qu'il y a beaucoup de gens, moi compris, qui ont des grandes bibliothèques, mais qui n'ont pas tout lu, et largement, et de loin, en fait.
Oh, je crois qu'à quelques exceptions ou cadeaux malheureux ou malencontreux, ouais, j'ai à peu près lu tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. J'en ai même perdu pas mal. Et j'en ai donné beaucoup aussi. C'est-à-dire que c'est ce que voilà, vous savez, peut-être que mes livres préférés ne sont plus là parce que c'est les livres que j'ai tendance à offrir.
Mais c'est une sorte de toc chez vous, c'est-à-dire qu'un livre ne peut pas rentrer dans la bibliothèque tant qu'il n'a pas été lu, ou comment ça se passe?
Ah, ça m'est un peu passé, mais j'avais peut-être effectivement un côté bon élève. Alors je vous dis que je les ai tous lus, en tout cas je les ai tous parcourus, ou je les ai tous commencés.
Maintenant j'arrive éventuellement.
Non, mais j'arrive à faire ce truc de m'arrêter au bout d'un moment et de dire non, là ça m'emmerde, la vie est courte et je vais passer à autre chose. Ouais.
Ça fait partie des droits du lecteur selon Pennac, ça. On a le droit d'arrêter un livre.
Ouais, mais moi longtemps, et c'est vraiment ce côté bon élève, je pense que j'avais longtemps, je me suis empêché de ne pas finir un livre.
Alors, c'est classé par maison d'édition, plus ou moins.
Hein. Ouais, c'est vaguement, mais quand même un peu, ouais.
Les grands formats, bouquins, quarto, dans un coin. Il y a des comics en bas, on va y revenir. Il y a les éditions de Minuit Ensemble, les POL Ensemble, avec beaucoup d'Emmanuel Carrère, les éditions de l'Olivier Tout Ensemble. Vous aimez beaucoup les éditions de l'Olivier, j'ai l'impression.
Ouais, j'ai des amis qui écrivent à l'édition éditions de l'Olivier, c'est peut-être pour ça aussi.
Et puis des poches, beaucoup de poches, et beaucoup de littérature américaine. Je vois que vous avez une belle collection de Raymond Carver, par exemple.
Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'un ami qui s'appelle Diastème qui m'a dit il faut absolument que tu lises ça. Et donc il m'a offert ces quatre bouquins de Carver qui sont chez l'Olivier d'ailleurs. C'est ça, exactement.
Il y a deux étrangetés, enfin je sais pas si c'est des étrangetés, mais vous avez beaucoup de romans et tout ça. C'est très chouette. Et puis vous avez des essais d'actualité. Vous avez Davel Homme. Vous avez Catherine Ney, notre collègue Souvenir, ses mémoires. Et puis vous avez un livre de Claude Guéant, tout à coup, là, quelques vérités à vous dire.
Ça, c'est une blague, ce livre de Claude Guéant. C'est un ami à moi qui écrit des livres qui s'appelle Gis. Donc il était à côté de lui à un salon du livre. Ils étaient
alphabétiques.
C'est le jour de mon anniversaire qu'il faisait le salon du livre. Et donc le soir, il m'a ramené ce truc. Je crois que ça s'ouvre sur une dédicace à moi de Claude Guéant.
Ah, carrément.
Il dit pour Alex, qui comme moi est intéressé par la chose publique. Enfin, bon, je suis un peu loin de Claude Guéant quand même, si on parle de choses publiques. Non, mais tout ce qu'est les Catherine Ney, Davel Homme, tous ces bouquins un peu politiques, pour moi, c'est des bouquins d'été, des bouquins de vacances. C'est des bouquins qu'on lit au bord de la piscine avec des amis. Ça ou des biographies un peu... Moi, je suis capable de lire la biographie de Nathalie Tosia, par exemple, en été, si je la retrouve dans une maison de location, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des trucs qu'on lit autour de la piscine, puis on se lit les bonnes pages, généralement. Ouais. C'est un moyen... C'est pas de la grande littérature, mais c'est un moyen de partager des choses avec des amis qui aiment aussi ça, les choses publiques, le truc de Catherine Ney, il y a des passages formidables. Elle est à la fois très drôle et très... Elle a son côté un peu réac, elle a son histoire avec Albin Chalandon, tout ça. Moi, ça me fait beaucoup rire, tout ça.
Beaucoup de respect pour Catherine Ney, évidemment.
Ben, bien sûr.
Vous avez la...
Oui,
la recherche du temps perdu, mais en version quarto, c'est-à-dire l'intégrale en un seul bouquin.
J'ai un immense regret d'avoir acheté ça, parce que c'est illisible, en fait.
Et alors, comment vous avez fait ? Parce que le marque-page est quand même assez loin.
Oui, non, mais ça, c'était soit pour frimer, soit parce que c'est un hasard total que ce marque-page soit ici. Non, je pense que... voilà, j'avais acheté ça en me disant, dans un grand moment, je me disais, j'allais quand même mettre à Marcel Proust, j'avais déjà essayé plusieurs fois. Je me suis dit, si j'ai tout, ça va peut-être me forcer. Bon, ça, c'est absolument impossible à lire, hein, évidemment. Bah, j'avais racheté, en fait, dans la blanche, et pendant le confinement, au début du confinement, j'avais retrouvé les deux premiers, qui sont, et que j'ai lus d'ailleurs, qui sont évidemment du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en pleurs. Je me suis arrêté juste avant Guermantes, en fait, je me rends compte.
Parce qu'ils ont réédité dans la version Gallimard blanche.
Voilà, exactement. Et c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à lire. C'est même plus agréable à lire que du poche, même si, bon, moi, j'ai beaucoup de poche parce qu'il y a quand même des questions d'économie dans tout ça. Et donc, je voulais tout lire et j'ai lu ça, déjà, pendant le confinement. Puis je me suis arrêté parce que je l'aime beaucoup et en même temps j'ai envie de le gifler, je crois, à Marcel Proust.
Ah bon, donc, pourquoi
je sais pas, j'ai un rapport très ambigu. Il y a des choses que je trouve sublimes, mais il y a des choses qui m'insupportent absolument. Cette façon de cette espèce de gamin, un peu tête à claque, qui s'évoque de ses beaux-bires devant des aubépines ou des trucs comme ça. Au bout d'un moment, ça me... Mais c'est bien ces bouquins-là, les bouquins devant lesquels on n'est pas neutre, en fait. Mais moi, je crois qu'au bout des jeunes filles en pleurs, il m'agaçait plus qu'il m'émouvait. Donc peut-être que j'aurais dû continuer, mais là j'en étais là, moi, de mon rapport à lui, en fait.
Et alors, rien à voir, mais vous avez toute une collection de comics.
De Batman, même, très précisément.
Alors, voilà, il y a des bandes dessinées et puis il y a toute la collecte des Batman.
Pas toutes, mais il y en a quelques-unes, ouais.
Bon, vous l'avez lu quand vous étiez plus jeune ou alors c'est, vous
non,
l'avez
ça vient du cinéma, Batman. Batman, voilà. Je crois que c'est le film de Tim Burton en 89. 89, j'ai 15 ans, le film sort. Moi, je suis absolument fasciné par le film, par ce qu'il a fait du personnage, par l'interprétation de Nicholson qui fait le Joker. Et c'est par la suite que j'ai commencé à m'intéresser à Batman comme personnage de comics et aux bandes dessinées. Oh, je crois que ce qui me plaît dans Batman, c'est vraiment un truc de garçon, ça. Ce qui me plaît, c'est le côté super-héros et puis le côté super-héros un peu torturé, quoi. Il y a quelque chose. D'ailleurs, tous les comics que j'ai là, il y en a certains que j'ai achetés, celui que vous tenez là, tout ça, c'est pas très bon. Les très bons sont les deux gros là, qui s'appellent Amère Victoire et Un Long Halloween, qui sont des longues histoires, plutôt très bien écrites. Et si on regarde le graphisme, d'ailleurs, on est dans un graphisme presque un peu plus à l'européenne, qui est vraiment joli, quoi, où il y a vraiment une recherche, hein, vous voyez.
Ligne claire.
Qui s'éloigne un petit peu du comics, en tout cas. Et alors, ça, j'aime bien. Tout ce qui est les comics plus serrés, comme ceux qui sont là, je les ai lus parce que ça m'amuse, mais c'est plutôt de la... Pour moi, c'est plutôt du comics de divertissement, quoi.
Vous avez, à côté de la bibliothèque, une petite colline de livres sur une commode. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en cours de rangement?
C'est mes travaux. C'est ce que je... Voilà, le dernier que j'ai lu, je l'ai fini hier, c'est ça. C'est le dernier de Jonathan Coke et Billy Wilder et moi. C'est vachement bien.
Vous avez aimé? Ouais.
Ah non, mais j'ai pas aimé, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. Alors que je crois que pour lui, c'était un petit livre entre deux gros bouquins et là, tout ça, machin. Oui.
Et en mais fait, vous êtes très Jonathan Coe en général, je veux dire.
Ouais, j'aime beaucoup ça. Oui, j'avais été très impressionné par Testament à l'anglaise. Mais moi, par le dernier, qui était la fin d'une trilogie, là, Le cœur de l'Angleterre. Non, ce que j'aime bien, non, ça parle de cinéma aussi, et moi, tout ce cinéma un peu hollywoodien des années 50. Et puis, au milieu, on sent qu'il est très renseigné, qu'il invente un personnage de fiction qui est une interprète grecque qui suit le dernier tournage de Billy Wilder, d'un film qui s'appelle Fedora. Et donc, elle parle avec lui et son scénariste. Et il y a au milieu de tout ça, à la fois, des choses très drôles sur Hollywood, sur qu'est-ce que c'est que d'être un cinéaste, un scénariste, etc. Et puis, une petite réflexion sur l'Holocauste qui est assez impressionnante, voire qui m'a un peu scotché à un moment donné, quand même.
Et la vie très privée de Mr. Sim, est-ce que vous l'aviez lu, celui-là, Jonathan?
Oui, j'avais moins aimé.
Ah bon? Ah, pourtant,
j'avais trouvé...
Ça ressemble à une de vos chansons, quoi.
Mais je crois... Ah, vous trouvez? Ah, je trouve que c'est plus une chanson de Delerme.
Oui,
c'est ce qui est drôle parce qu'il avait fait la musique du film d'ailleurs.
Ah
bon, Vincent,
c'était lui, ah, d'accord.
Le film avec Bacri qui avait
fait l'adaptation.
Voilà. Et c'est lui qui avait fait la musique. Peut-être pour ça que ça me fait plus penser à une chanson de lui, moi, ce truc-là.
Vous faites un trip Zola en ce moment, il y en a deux. Y en
j'ai
a
relu. Alors celui-là, je l'ai pas lu. Pobouy, j'ai relu Nana. Mais j'ai relu Nana parce que j'avais une idée autour de Nana. Enfin bon, un truc. J'avais une curiosité par rapport à Nana parce que j'avais une idée autour du roman, autour de cette idée de Nana, de la figure de la prostituée, tout ça, comme ça, voilà. Et donc, j'avais besoin de le relire pour voir si cette idée était valide. Et puis, ça m'a tellement plu que dans la foulée, je me suis acheté Pobouille, que j'ai pas encore commencé, par contre. Nana, ça y est, c'est relu, Pobouille, pas encore.
Et je vois juste derrière vous, à côté, des cassettes audio. Alors, vous avez un lecteur cassette, toujours?
Des cassettes audio. Bah oui, regardez.
Ah oui, à l'ancienne, ouais.
Regardez comme il est beau, celui-là.
Ah, on dirait un truc de classe, en fait.
Alors là il marche pas parce qu'il
faut brancher. Rouge record.
Et je crois que le réservoir à pile est fondu ou rouillé. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté parce que je travaille sur ça, sur l'album de Gainsbourg, Love on the Beat, là, que j'ai en cassette. Je l'ai réécouté là-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des disques qui sont plus ou moins bien produits. Ça. Enfin, on est là pour parler de littérature, mais quand même, ça sonne même là-dessus. Ça sonne quand même encore un petit peu, cette plaisanterie. Là.
Et juste après, alors il y a encore des BD, pas des comics, mais là c'est Joanne et Pierre-Louis.
Ah, ça c'est des trucs d'enfance.
L'intégrale. C'est... Mais ça veut dire que vous les avez rachetés, ceux-là.
Ouais, ça c'est des trucs qu'il y avait chez mes parents. Et je crois que quand j'étais petit, c'était ma bande dessinée préférée, cette espèce de Moyen-Âge fantastique, là, tout ça, ça me plaisait. Puis il y avait un truc dans le dessin de Peyo, qu'un auteur de bande dessinée assez déconsidéré par rapport à des Franquin ou des Hergé ou tout ça, parce qu'il a fait les Schtroumpfs et que ça a bouffé en fait son œuvre. Mais je trouve qu'il y a dans Joanne et Pierre-Louis, un talent de dessinateur et de conteur qui est assez exceptionnel quand même. Donc ça, c'est des choses que j'ai rachetées pour... J'en ai quelques... J'ai l'intégrale de Gaston, là, en bas, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses, parce que je considère que Franquin est un génie. Et j'ai une petite intégrale des Lucky Luke de Goscinny, aussi, à côté. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu un drame dans ma vie, c'est que j'avais plus de 700 BD ou 800 BD. Et quand j'ai plus d'argent, je me suis dit, il faut que je choisisse entre vendre des bandes dessinées ou vendre mes disques, mes CD. Et comme je suis un garçon très intelligent, je me suis dit, non, mais les CD... Ça ne va jamais se dématérialiser. Il n'y aura jamais un moment. On aura... Puis moi, j'aimais la musique, je voulais faire de la chanson. Alors, chez Gibert, comme on fait à Paris, j'ai vendu toutes mes BD. Donc, j'ai beaucoup de mal à en racheter.
Ah, c'est dur, ça.
Parce que quand on a tout vendu, c'est compliqué de recommencer, en fait.
Merci beaucoup, Alex Baupin.
Ben non, merci à vous. On a trop parlé.
À bientôt.
On va lire maintenant.
De retour en studio, et je rappelle qu'Alex Baupin sera en concert le 11 juin au Trianon. Et chez vous, Charles Wright, ça se passe comment, les livres? Comment vous les rangez? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous habitez aujourd'hui, où vous en êtes?
Bon, ben moi, je suis pauvre comme Job, donc je suis propriétaire de rien. Ma seule richesse, c'est des livres. Mais le problème, comme vous dites, c'est que je me partage entre Paris et une petite cabane qui est comme ça, dans un infini de verdure en Ardèche. Donc les livres, ils sont partout. Et mon rêve, quand je serai riche et célèbre... Ça serait d'avoir...
Comme si c'était votre rêve.
Non, mais ça serait de pouvoir avoir une belle étagère en bois, comme ça, jusqu'au plafond, et de réunir tous ces livres, et d'essayer de les classer, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'anarchie, c'est pas terrible.
Merci beaucoup, restez avec nous. Dans un instant, on va acheter des livres, tiens, chez un libraire. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction Saint-Mandé, chez Marie-Ève Charbonnier, librairie. Parole. Bonjour Marie-Ève Charbonnier.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir à la librairie Parole de Saint-Mandé. Vous avez trois livres aujourd'hui et on commence par un polar. Vous m'avez dit avant d'allumer les micros, ça c'est le polar de l'année, c'est génial, c'est génial. Et c'est édition Gallmeister, donc je suis plutôt porté à vous croire.
Alors oui, L'île des âmes de Pier Giorgio Pulizzi. Alors Gallmeister se lance dans la littérature non américaine et ça c'est un roman sarde, roman policier, vraiment très très réjouissant, extrêmement bien écrit, qui met en scène deux inspectrices sardes, une sarde et l'autre italienne, qui vont se retrouver et enquêter autour de meurtres non élucidés. Et en fait ça met en scène des meurtres rituels de jeunes femmes dont on n'a jamais trouvé qui était l'auteur. Parce que tout simplement, personne n'a réclamé le corps. Voilà. Et à partir de là, elles vont enquêter et c'est extrêmement bien écrit. On est baigné dans la Sardaigne, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, forcément. Voilà, et ça met en scène les rites ancestraux. Vraiment, franchement, c'est impossible de s'arrêter de tourner les pages. En plus, il est beau, ce livre.
La couverture est magnifique.
Les pages sont douces, c'est un vrai plaisir de lecture.
L'île des âmes, donc, de Pier Giorgio Pulizzi. C'est chez Gallmeister. Et ensuite, vous avez un petit livre très joli aussi, mais pas du tout la même ambiance. Il n'y a pas le soleil de Sardaigne. Ça s'appelle Jeune femme aux luttes de Catherine Weber aux éditions du Sonneur, c'est ça? Vous nous décrivez un peu la couverture?
Oui, exactement. Là aussi, une extrêmement belle couverture. Encore un livre étranger, absolument rien à voir. On est dans une lande irlandaise. Et ce livre parle de l'Irlande aussi. C'est un espèce de thriller artistique. Le point de départ, le tout début du livre, on est dans un village totalement perdu en Irlande. Une jeune femme qui est toute seule dans une maison et elle a un mystère caché dans une pièce. On apprend très vite que c'est un tableau et que c'est un tableau de Vermeer, tableau très très connu qui s'appelle « Jeune femme aux luttes ». Et en fait, tout le but du roman va être de découvrir pourquoi et comment cette jeune femme se retrouve toute seule avec ce tableau qui est caché aux yeux de tout le monde. Ça met en scène, donc on parle beaucoup d'indépendance de l'Irlande. Il y a évidemment une histoire d'amour là-dedans qui est pleine de saveurs et de sel.
Il a été volé, quoi, le tableau?
Ah, je ne dis rien. Il ne faut surtout pas le dire. Mais pourquoi il aurait été volé? C'est ça qui est intéressant.
Attendez, laissez-moi réfléchir. Pourquoi il était... Pour financer justement les mouvements indépendantistes.
Ah, bah, faut le lire pour le savoir.
D'accord. Donc, Jeune femme aux luttes de Catherine Weber aux éditions du Sonneur. Et alors, vous avez un immense coup de cœur aujourd'hui.
qui va tous nous reposer un peu, qui s'appelle « Paresse pour tous ». Mais c'est un roman.
Ouais, c'est un roman publié aux éditions du Tripode de Adrien Klent et qui signe là vraiment un roman réjouissant. Alors, ça fait du bien de lire des livres qui sont drôles et intelligents et je vous assure que ce n'est pas du tout contradictoire. Dans ce livre, l'auteur met en scène un jeune homme qui s'appelle Émilien Long, qui est prix Nobel d'économie, et qui défend une thèse qui est que 3 heures par jour, ça suffit largement, 3 heures de travail par jour suffisent largement pour subvenir à ses besoins, produire...
Faire tourner le monde, quoi.
Faire tourner le monde, exactement. Et en fait, le tout début du livre, Émilien Long est en train d'attendre les résultats de l'élection présidentielle de 2022. Et ensuite, on va remonter en arrière comment il se retrouve là, parce qu'un prix Nobel d'économie qui défend 3 heures de travail par jour, c'est pas évident de réussir à se faire élire.
Parce qu'il s'est présenté à l'élection.
Il s'est présenté à l'élection, on ne sait pas s'il va être élu ou pas, il faut lire le livre pour ça. Et en tout cas, c'est comment est-ce qu'il finit par se retrouver là, alors que vraiment, il n'a aucune prédilection et aucune envie d'être élu président. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est extrêmement bien documenté et étayé. Ce n'est pas juste une thèse, en fait, il y a plein d'articles, il y a une très longue bibliographie à la fin du bouquin. L'auteur s'est vraiment renseigné pour défendre ça. On a presque envie d'y croire.
C'est pas une idée de roman un peu absurde. Il est parti de vraies thèses économiques.
Et il y a un truc qui est très, très intéressant, c'est que le travail, c'est pas du tout... C'est la torture, en fait. Donc, travailler pour son plaisir, c'est pas vraiment du travail. Voilà. Et franchement, ça donne plein d'envie. On a presque envie de s'arrêter.
Merci beaucoup. Paresse pour tous, de Adrien Klent. C'est aux éditions du Tripode. Merci beaucoup, Marie-Ève. À bientôt.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
Retour à Europe 1. Dans un instant, nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
C'est un roman pour ados aujourd'hui. Il s'appelle Tavrier de Johan Richoux.
Oui, c'est l'histoire de Danaël, un ado totalement paumé, 17 ans, les cheveux longs, assez filasses, une peau ravagée par l'acné, des jeans trop grands pour ses hanches, des pompes défoncées. Enfin, vous voyez plutôt pas mal le portrait, là, vous êtes bon. Il vit dans un petit bled où c'est l'hiver 10 mois sur 12 et où les silos à grains sont les seuls monuments du coin, c'est dire. Danaël n'a vraiment rien, pas beaucoup d'amis non plus au bahut, ni de passion, enfin si. Il n'en a qu'une, elle s'appelle Florine, gothique, insaisissable, mais elle le bouleverse. En seconde, il n'ose pas trop l'approcher et puis un jour, un rapprochement s'opère de manière inattendue.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors, c'est un jour de colle, Danaël aperçoit Florine au fond de la classe, il se lance, il s'assoit à côté d'elle, lui propose un écouteur, il trouve ça super intime, mais il accepte bien sûr. À l'intérieur, Polly de Nirvana, une illumination pour Danaël, il tombe raide, mais alors raide dingue d'elle, ils font un bout de chemin ensemble.
Mais Nirvana, attendez, on est en quelle année là ?
Non, on est en 93, mais les jeunes l'écoutent encore.
Ah.
Ouais, exactement. Ils font un bout de chemin ensemble, font l'amour, même leur première fois. Mais au bout de quelques jours, Florine s'emporte. Danaël, il n'y a rien. On s'est vu 4 fois, c'était cool. On a baisé, il n'y a que dalle. Je sais pas ce que t'es allé t'imaginer. À partir de là, Danaël va effectivement vriller. C'est l'histoire en fait d'un aveuglement, d'une incompréhension, comme il en existe des milliers à cet âge. C'est un texte très court, 40 pages à peine, une écriture d'un seul souffle, jetée à la gueule de l'ado qui va la lire. C'est vraiment très très beau.
Et on rappelle le titre, Tavrier, de Johan Richoux, aux éditions Actes Sud Junior.
Et ce texte fait partie, je rajoute Nicolas, d'une très très jolie collection qui s'intitule D'une seule voix. Une voix qui fait référence au titre de cette belle émission. Rendons hommage, nous, à présent, à cette belle collection. Des textes courts, très bien mis en page. Piochez ce qui vous plaît, vous ne serez jamais déçus.
Et puis il y a un petit crocodile bonbon sur la couverture.
Ah ouais, qui donne envie, exactement.
Et vous, Charles Wright, c'est quoi le premier livre qui vous a marqué? Rêverie du promeneur solitaire de Rousseau, non?
Non, c'est un livre qui est tout aussi romantique. J'avais un vieil oncle qui était fan de Chateaubriand. Et donc il m'a inoculé le virus et c'est René de Chateaubriand. Alors c'est pas... C'est... René, pour vos auditeurs, il faut que je présente...
François René de Chateaubriand.
Oui, mais il a écrit un roman qui s'appelle René. Et bon, il faut que je décrive en deux mots. Bon, René,
donne-nous envie.
C'est la jeunesse transposée de Chateaubriand. Donc c'est un jeune homme qui se retrouve au fin fond du Mississippi, dans une tribu indienne, et il raconte sa jeunesse au vieux chef indien, chef de la tribu Natchez. Et donc, une jeunesse très inquiète, très tourmentée, parce que voilà, c'est la peinture un peu d'une âme... instable, une âme qui est habitée par une soif d'infini, et puis évidemment, il se cogne partout contre les murs, alors il va chercher dans, dans les voyages, il va chercher dans les amours, il va chercher dans les forêts, dans les monastères. Et en fait, rien n'est jamais à la hauteur du rêve, de l'idéal. En fait, avec René, Chateaubriand, il invente le vague à l'âme, il invente le spleen. Et ça va devenir un peu l'étendard du romantisme. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de sa vie, Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il désavoue complètement ça. Il dit « Mais c'est n'importe quoi, j'ai enfanté une génération de marmots avec la mèche au vent, qui se prennent pour des génies, qui griffonnent des poèmes et qui se disent tourmentés par leur passion. » Voilà, moi, j'ai été un de ces adolescents un peu ridicules.
Et votre prochain voyage, c'est Itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est Chateaubriand, ça aussi, non?
C'était tout à fait Chateaubriand. Ouais, non, le prochain voyage, pour l'instant, c'est plutôt un voyage, un pèlerinage immobile. Voilà, le voyage intérieur aussi.
Un peu moins fatigant pour les jambes.
Ouais, c'est aussi un certain combat, mais il y a des immensités en nous.
Absolument. En attendant, on peut toujours lire Le Chemin des Estives, ce voyage incroyable dans le Massif central. Merci beaucoup, Charles Wright.
Merci beaucoup, Nicolas.
Prix littéraire, Europe 1 GMF, deuxième édition. Bravo à vous.
Merci.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.